With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
C'est la grand-messe du foot US, le match que tous les Américains regardent, celui qui génère des audiences phénoménales aux États-Unis et même à travers le monde. Ce match, c'est le Super Bowl, le bouquet final de la saison de NFL. Des stars sur le terrain, à la mi-temps avec le célèbre Halftime Show, des pubs préparées spécifiquement pour cet événement. On en oublierait presque ce qui se passe sur le terrain et pourtant, il s'en passe des choses. Alors, quel est le plus beau Super Bowl, celui qui vous a procuré le plus d'émotions? Difficile de se prononcer, me direz-vous, mais nous allons quand même essayer. Je suis Adrien Yo, vous écoutez le podcast Qui c'est le plus fort, et nous allons évoquer aujourd'hui le plus grand Super Bowl de l'histoire. Pour m'accompagner, trois journalistes spécialistes de foot US, Alain Mattei, célèbre plume de touchdownactu.com, Samir Hamoudi, journaliste à RMC Sport, et Laurent Vergne de la rédaction d'Eurosport. Salut messieurs.
Bonjour.
Salut.
Salut tout le monde.
Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner. Comme ça, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Alors pour commencer, messieurs, quelle édition du Super Bowl avez-vous choisi? On va commencer avec toi, Samir.
Ouais, le plus ancien peut-être de ceux qui ont été choisis. Moi, j'ai choisi le Super Bowl 23, saison 1988. Le Super Bowl a lieu en 1989. 49ers Bengals, Cincinnati Bengals, San Francisco 49ers, pour une raison simple, c'est que c'est le tout premier que j'ai vu en direct. Je me souviens avoir découvert le football américain via la 5 sur le Super Bowl Broncos Giants, mais je n'étais pas vraiment conscient du sport. Alors que là, bah, je découvrais vraiment les sports américains. J'étais vraiment subjugué, puisque je commençais à suivre aussi la NBA. Canal Plus, à l'époque, diffusait tous ces grands événements. Et je suis tombé amoureux. Je suis tombé amoureux du sport. Je suis tombé aussi amoureux des 49ers. Je suis tombé amoureux de Joe Montana. Je suis tombé amoureux des couleurs et du folklore. Et voilà, et pour moi, c'est le plus grand aussi parce que la dramaturgie de ce match, elle est juste exceptionnelle.
Il y a les souvenirs d'enfance, il y a la dramaturgie, il y a tout ça. Tu vas nous expliquer ça dans quelques instants. Laurent, toi, tu as choisi quel Super Bowl?
20 ans après, pile poil. 2009, le Super Bowl 43, si je ne dis pas de bêtises, entre les Pittsburgh Steelers et les Arizona Cardinals. J'ai hésité entre plusieurs Super Bowls, notamment des Steelers, mais j'ai choisi celui-là. On en parlera tout à l'heure.
Et Alain, toi, tu as choisi le plus récent, peut-être, des trois choix.
Oui, juste quelques années après celui de Laurent. J'ai failli prendre le Steelers Cardinals aussi, pour être honnête. Et du coup, finalement, je suis passé sur le 49, donc de la saison 2014-2015, joué en 2015, entre les Seahawks et les Patriots. Donc, une victoire des Patriots. C'est le quatrième titre de Tom Brady, qu'on reverra au Super Bowl très bientôt. Et pour le coup, alors il y a un peu de perso aussi dans celui-là, parce qu'il a la particularité, j'étais sur place, donc forcément ça crée des souvenirs un petit peu, encore un peu plus intenses. Et puis pour moi, il a toutes les qualités d'un grand match, on y reviendra plus en détail, mais il y a vraiment de la qualité de jeu, il y a des faits marquants, et puis il y a un effet machine à café d'une action en particulier en fin de match qui a été très 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 discuté et qui fait encore mal aux supporters des Seahawks. Ouais. donc voilà, il y a tous ces ingrédients-là pour moi.
Vous nous faites tous les trois saliver, messieurs. On va commencer avec Samir, le plus ancien par le choix du Super Bowl, avec les 49ers contre les Bengals. Alors tu disais, il y a quelque chose un petit peu qui remonte à ta jeunesse, à des souvenirs d'enfance. Qu'est-ce qui t'a marqué dans ce match?
Deux choses m'ont marqué et ça reste aujourd'hui pour moi des éléments moteurs quand je parle de NFL et de football américain. C'est pour moi deux des plus grands joueurs de l'histoire à leur position. c'est Joe Montana, c'est Jerry Rice. Et à tout niveau, parce que Jerry Rice devient l'un des rares receveurs à devenir MVP du Super Bowl. Il reçoit pour plus de 200 yards, donc il fait un match mais monstrueux, alors que le score n'est pas si élevé que ça. Hein, pour la petite histoire, le score, ça finit à 20-16 en faveur des 49ers. Mais Jerry Rice, il est inarrêtable. Il est totalement inarrêtable face à l'époque à l'une des meilleures défenses de la NFL. Bon, moi, ça, tout ça, je l'ai découvert que bien plus tard, hein, quand je me suis vraiment intéressé au sport. Mais voilà, le score est petit, 20-16, mais il y a cette dramaturgie du fameux drive. Aujourd'hui, tout le monde connaît Joe Montana quand on s'intéresse un petit peu au football américain et à la NFL, parce que c'est Joe Cool, parce que c'est le gars qui était capable de ramener son équipe dans les matchs. Et ce drive, c'est sa signature. Et j'avoue que, égoïstement, moi, je suis très heureux parce que j'ai eu la chance, voilà, de le vivre en direct. Et ça a été mon tout premier match de football américain, véritablement en direct, conscient. Et c'est juste exceptionnel. Alors, je sais qu'on rentrera dans le détail, mais ce que fait Joe Montana dans ce drive, où il remonte comme ça sur plus de 70 yards le terrain pour amener son équipe à la victoire avec une action d'éclat à la fin, c'était juste merveilleux.
Ouais, Joe Montana, voilà, le podcast qui sait plus fort, c'est un podcast qui est grand public. Joe Montana, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une légende du football américain. Et tu parlais de drive. Est-ce que tu veux bien nous expliquer en deux mots ce qu'est un drive pour les gens qui nous écoutent?
Un drive, c'est tout simplement le résumé d'une possession offensive complète. Donc voilà, pour la petite histoire, ils sont partis de leurs 8 yards. Donc vous voyez, je vous parlais de 70 yards, mais c'est même 92 yards exactement. Ils sont partis sur leurs propres 8 yards, alors qu'il restait un tout petit peu plus de 3 minutes dans le match. Ils étaient menés dans la rencontre et ils vont remonter tout le terrain. Ils vont remonter tout le terrain sur 92 yards à base de petites courses de Roger Craig, à base de petites passes pour Jerry Rice, quelques longues passes aussi. Et tout ça dans le plus grand des calmes avec un Joe Montana qui est l'ancêtre en fait de Tom Brady. Parce que pour la petite histoire, Tom Brady, quand il était jeune, il était fan de Joe Montana et il allait au fameux Candlestick Park, le stade des 49ers, alors qu'il avait entre 4 et 6 ans. Pour aller voir Joe Montana et son équipe favorite, les 49ers de San Francisco.
Ouais, remonter comme ça, l'équipe était menée 16-13. Hein. Il remonte en 3 minutes 30, 92 yards, comme tu dis, pour finir par gagner 20-16. C'est quelque chose, comme tu dis, c'est un finish époustouflant. Laurent, toi, tu as un souvenir aussi de ce match?
Ah oui, alors c'est bon, on a à peu près le même âge avec Samir. Et moi aussi, c'est le premier Super Bowl que j'ai vu en direct. Et je crois que c'était, alors, je vais être très honnête, je me souvenais même pas que la 5 avait diffusé un Super Bowl. Pour moi, c'était Canal.
Ouais, je disais 2-3 Super Bowl avant justement.
Celui-là. Et celui-là, ça doit être le premier sur Canal en tout cas, parce que j'ai souvenir de Georges Eddy et Philippe Chatney aux commentaires. Alors. Moi, c'est un Super Bowl que j'ai failli prendre pour des raisons aussi perso, parce que voilà, c'est la période où j'ai commencé à aimer la NFL, le foot US, et il faut tirer un coup de chapeau à Georges Eddy et à Canal qui ont vraiment fait beaucoup pour la promotion de ce sport en France. Et les jeunes qui aiment la NFL aujourd'hui, qui aiment le foot US, ils se rendent peut-être pas compte de la chance qu'ils ont, mais c'est très facile aujourd'hui de regarder des matchs de foot US, et c'est très facile de partager sa passion via les réseaux sociaux, via des émissions. On a des médias aujourd'hui comme celui d'Alain à qui il faut tirer un énorme coup de chapeau aussi, qui permettent de suivre ça de près quand on est en France. Nous, quand on était gamins, en tout cas Samir et moi, la NFL, c'était une passion solitaire. Je dirais pas un plaisir solitaire, mais une passion solitaire. Et voilà, il n'y avait pas de médias, c'était très compliqué. Et les seuls trucs qu'on pouvait voir, c'était Canal qui diffusait un match chaque week-end, mais du week-end précédent, un résumé d'une heure, et puis le Super Bowl en direct. Donc, c'était vraiment un événement énorme. Alors, hier, j'ai revu dans les conditions du direct sur le Game Pass les 5 dernières minutes. En gros, le dernier drive de Cincinnati où ils prennent l'avantage, 16-13, et puis le dernier drive de Joe Montana. Et il y a deux choses qui sont extraordinaires, c'est qu'ils prennent deux pénalités quand même sur le drive. Donc en yard net, effectivement, je crois que c'est 92 yards. Et puis, ce qu'il faut rappeler, c'est que leur kicker, donc le kicker, c'est celui qui tape les coups de pied, soit pour convertir un touchdown. Donc un touchdown, c'est 6 points. Et pour les novices, et la conversion vaut 1 point. Et un field goal, c'est quand l'attaque dans un drive donc avance, mais elle n'arrive pas à aller jusqu'au touchdown, qu'elle est bloquée. Soit elle est trop loin pour pour taper un field goal qui vaut 3 points et elle se dégage, soit elle est en position de le faire et elle tape un field goal. Or, le kicker des 49ers avait raté deux field goals dans ce Super Bowl, dont un à 19 yards, ce qui est une distance ridicule. C'est quasiment rater un penalty sans gardien de but, quoi. Donc, les 49ers, ils savent que quand ils démarrent ce drive, bah, il vaut mieux mettre un touchdown pour prendre l'avantage au score, parce qu'effectivement, ils auraient égalisé avec un field goal, mais je pense qu'ils n'étaient pas super sereins. Et Montana est fantastique sur ce drive. Il y a une anecdote avec un acteur qui s'appelle John Candy, que vous avez peut-être vu dans Rasta Rocket notamment, et où Joe Montana, au tout début du drive, pour calmer tout le monde, au moment dans le huddle, quand les joueurs se regroupent, il dit « Vous avez vu les gars ?» Je ne sais plus à qui il parle exactement. Il dit « C'est pas John Candy là-bas ?» Et tout le monde regarde. Et en fait, tout le monde s'enlève un peu de pression avec cette phrase de Joe Montana. Donc, c'est un truc qui est devenu un petit peu légendaire. Après, il fait un drive formidable. Il fait 8 passes sur 9 complétées dans le drive. Et puis, la dernière passe, elle est pour John Taylor, qui était l'autre receveur des 49ers. Et qui n'avait pas capté une passe du match. Et c'est là tout le génie de Joe Montana, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, ils n'ont pas de communication dans le casque. Hein. Donc Joe Montana, il appelle ses propres jeux, c'est lui vraiment, c'est son drive. Je ne veux pas dire qu'aujourd'hui, les Brady, les Manning, les Rodgers ne font rien. Mais évidemment qu'il y a des jeux qui sont préparés, mais je pense que dans un dernier drive comme ça, il y a beaucoup de feeling aussi. Et donc, c'est un coup de génie, cette dernière passe pour John Taylor, parce que la défense de Cincinnati s'attend évidemment à une passe pour Jerry Rice, qui, comme Samir l'a dit, était vraiment en feu ce jour-là. Et voilà, personne ne voit venir, et John Taylor est tout seul dans la end zone et il capte le ballon. Donc, c'est probablement un des drives décisifs les plus célèbres de l'histoire du Super Bowl, même s'il y en a beaucoup, j'en parle tout à l'heure.
Alors. Lui, c'est aussi, très rapidement, pour faire écho à ce que vient de dire Laurent, c'est la touche finale du maestro, pas Montana, mais l'entraîneur Bill Walsh. C'est son tout dernier match à la tête des 49ers de San Francisco. Alors ça encore, nous on l'apprendra plus tard, mais aujourd'hui, Bill Walsh, il est considéré comme le plus grand de l'histoire, vraiment. Moi, si on me demande entre Bill Belichick et Bill Walsh, je vais vous dire Bill Walsh, parce que Bill Belichick, c'est un peu le descendant en quelque sorte de ce que Bill Walsh a pu apporter au sport. Je ne parle pas à la NFL, mais vraiment au sport, celui qui a démocratisé ce football panache, ce football spectacle, ce football basé sur de la passe et du jeu offensif avant tout, parce que Belichick, c'est un coach défensif à la base, c'est Bill Walsh. Et Bill Walsh, pour prendre pour le comparer un petit peu à d'autres sports, et notamment le football, ce serait un petit peu le Pep Guardiola ou le Marcelo Bielsa du football américain. C'est quelqu'un qui a inventé le sport et qui avait aussi un espèce de panache, une envie de révolution de la tactique et du sport.
Moi, j'ose pas rebondir sur Samir qui dit que Belichick n'est pas le plus grand coach du monde, parce que je ne veux pas me faire d'ennemis. Mais pour revenir sur ce match, en effet, alors bon, moi, pour le coup, je ne l'ai pas vécu, hein, j'avais 3 ans. Mais en effet, ça fait partie de la mystique NFL complètement. C'est ce qui a été dit plusieurs fois. Joe Montana, c'est Tom Brady avant Tom Brady. C'est-à-dire que les gens qui regardent aujourd'hui Tom Brady, Montana, c'est ça à l'époque. Et y a ce drive, en effet, de 92 yards. Là encore, je rebondis sur ce que vous disiez, mais avec les facilités qu'on a maintenant, on peut le revoir sur le Game Pass, on n'a plus d'excuses pour pas creuser dans l'histoire de la Ligue maintenant. Et oui, ça fait partie de ça. Il y a cette anecdote incroyable avec le fait qu'il monte l'acteur dans le public avant. Il y a le match de Jerry Rice. Il y a ce drive incroyable. À une époque d'ailleurs où le Super Bowl n'était pas toujours le meilleur match de l'année, ça a duré quelques temps, on a été gâtés ces dernières années, mais donc c'était un très grand Super Bowl à une époque où le niveau était assez inégal dans les grands matchs. Donc moi, je comprends totalement qu'il puisse être considéré comme un des plus grands Super Bowls. Encore une fois, pour tout ce qu'a dit Samir, pour le coach, parce que Bill Walsh, c'est la dernière, pour Joe Montana, pour Jerry Rice, voilà, il y a énormément, énormément de choses qui font que c'est un match mythique parmi tous les matchs mythiques.
Et à l'époque, l'équipe de la NFC, donc il y a deux conférences, hein, comme en NBA, gagnait tous les ans. Je crois qu'il y avait la dernière victoire, c'était les Raiders en 84, je crois.
Exactement.
Et derrière, pendant plus de 10 ans, l'équipe de la NFC gagnait le Super Bowl, et souvent c'était des énormes raclées. Il n'y avait pas de match. Effectivement, Alain l'a dit, c'était rarement le match le plus intéressant de l'année, parce qu'il y avait souvent une grosse différence. Donc celui-là, ce n'était pas le cas. Et c'est vrai que parfois, les Super Bowls avec des petits scores sont aussi des matchs formidables. 2 ans après, il y a eu un match très célèbre aussi entre les Giants et Buffalo, et qui s'est joué, pareil, à 21-19, donc un score à peu près similaire. Il n'y a pas toujours besoin d'avoir 40 points de chaque côté pour vivre un très, très grand match.
Et je sais que ça va faire plaisir à Laurent, Adrien, mais dans l'équipe des Bengals de Cincinnati à l'époque, l'un des assistants coachs défensifs n'était autre que Dick LeBeau.
Absolument. Le peut-être le plus grand maître de la défense en termes de coaching
Alléluia.
Dans l'histoire.
Passons à ton choix, Laurent. Il faudra, tu dis, quelques années de plus pour voir gagner notamment une équipe qui tient à cœur, les Steelers, lors du 43e Super Bowl en 2009. Une victoire face aux Cardinals, 27-23. Là aussi, il y a eu du suspense, il y a eu un scénario, comme on dit.
Ah oui, c'est un match vraiment formidable. Alors évidemment, moi, je suis pas très objectif puisque les Steelers, c'est vraiment mon équipe de cœur. Ça fait 30 ans que je soutiens cette équipe. Donc maintenant, voilà, quand on a fait chacun notre choix, Alain avait choisi un Super Bowl des Patriots, Samir un Super Bowl des 49ers. Donc il me paraissait important quand même de choisir un Super Bowl des Steelers, pas parce que c'est mon équipe préférée, mais parce que ils l'ont gagné 6 fois, ils ont 6 trophées Vince Lombardi, ils ont été égalés, pas dépassés. Heureusement, merci Tom Brady qui a quitté New England. Ils ont été égalés par New England. J'ai beaucoup hésité avec 2 autres Super Bowls des Steelers des années 70 jusqu'au début des années 80. Ils ont gagné 4 fois en 6 ans. C'est pour moi peut-être la plus grande dynastie de l'histoire de la NFL, parce que les Patriots, c'est un peu différent, c'est sur 20 ans. J'ai du mal à considérer que c'est une dynastie.
Il y a c'est Brady, Tom Brady, la dynastie.
Voilà, et Belichick. Voilà, c'est Brady et Belichick, mais la différence avec les Steelers, c'est qu'ils ont gagné 4 fois en 6 ans, pratiquement avec la même équipe. Et il y a 2 Super Bowls qui sont vraiment exceptionnels, hein, contre les Rams de Los Angeles, et celui qui est peut-être le plus beau contre les Dallas Cowboys, qui se termine à 35-31, je crois. Et que
c'est ça.
Un match que j'ai beaucoup vu et revu depuis qu'il est disponible et que c'est facile de les revoir. Et ouais, il est souvent considéré en termes de qualité pure comme le plus grand. En termes de dramaturgie, peut-être pas, mais c'est vraiment un match extraordinaire. Alors maintenant, j'ai choisi celui de 2009, le Super Bowl 43, parce que je l'ai vécu aussi voilà, en direct, et c'est quand même plus fort que de vivre quelque chose 20 ou 30 ans après. Si je l'ai choisi, c'est pour 2 raisons majeures. La première, c'est pour une action qui est peut-être pour moi la plus dingue de toute l'histoire du Super Bowl, et qui est un touchdown, mais pas un touchdown offensif, mais défensif.
Il ne va pas être enfin, content, Alain.
Ah si. Justement, justement.
Non, juste avant la mi-temps, Pittsburgh mène 10-7. Ils ont mené très vite 10-0. Arizona, c'est une équipe qui était moins expérimentée, que personne n'attendait, qui ont gagné sont qualifiés pour les playoffs en gagnant leur division, mais avec un petit nombre de victoires. Il y a des équipes qui gagnent plus de matchs que ça et qui ne font pas les playoffs. Et puis en playoffs, voilà, ils cassent tout. Il y a Kurt Warner, qui était l'ancien quarterback de Saint-Louis des Rams, qui a 37 ans, je pense, à l'époque, mais qui fait une saison formidable. Larry Fitzgerald, qui est un receveur extraordinaire. Et cette équipe, voilà, elle manque d'expérience. On ne sait pas trop ce qu'elle va donner au Super Bowl contre Pittsburgh, qu'il avait gagné 3 ans avant, et puis qui était une équipe plus rompue aux playoffs. Pittsburgh mène rapidement 10-0. Arizona revient 17. Et juste avant la mi-temps, Arizona a une possession. Ils sont à quelques yards de la ligne de Pittsburgh. Donc, ils peuvent prendre l'avantage juste avant la mi-temps. Et là, sur la toute dernière action avant de rentrer au vestiaire, Kurt Warner lance une passe dans la end zone pour le touchdown. Il est intercepté par James Harrison, qui était le meilleur défenseur de la ligue cette saison-là. Et James Harrison va remonter le ballon sur 100 yards. C'est la plus longue action de l'histoire du Super Bowl. Je ne crois pas qu'il y ait eu mieux depuis.
Non, il n'y a pas eu mieux. 102 yards.
Et c'est une action complètement dingue, parce que James Harrison, c'est un gros bébé qui court bien, mais qui est quand même pas, c'est pas Usain Bolt. Donc remonter 100 yards comme ça pour lui, c'est un truc de fou, et il a besoin d'une foule de blocs. Et ce qui est génial, c'est que juste avant d'arriver pour marquer le touchdown, le dernier joueur qui va le plaquer, c'est Larry Fitzgerald, qui était le receveur vedette d'Arizona, et qui se tape un sprint de fou pour y arriver. Et il est un peu gêné par un de ses coéquipiers. Et voilà, et c'est quand même le tournant du match, en tout cas le premier gros tournant du match, puisque Pittsburgh va mener 17-7 à la mi-temps au lieu d'être mené. Ensuite, ils vont mener 20-7 jusqu'à quelques minutes de la fin. Donc, on pense que c'est fini. Et puis là, il va y avoir tout un enchaînement. Arizona va mettre un premier touchdown. Ensuite, ils vont récupérer le ballon et il va y avoir un safety. Donc, un safety, c'est on marque deux points quand on, soit quand on plaque un porteur de ballon dans la end zone, soit quand il y a une pénalité, ce qui a été le cas des Steelers. Et derrière, à 2 minutes 30 de la fin à peu près, ils marquent très très vite. On pense que c'est la dernière possession. En fait, ils vont marquer tellement vite qu'ils prennent l'avantage, 23-20. Et là, il y a Ken Whisenhunt, qui était le coach des Cardinals et qui était l'ancien coordinateur offensif de Pittsburgh, qui raconte que quand ils ont marqué, qu'ils ont pris l'avantage, il était évidemment très content. Mais la première chose qu'il a regardé, c'est le chronomètre. Et il s'est dit, on a peut-être marqué un petit peu vite. Et derrière, il va y avoir un dernier drive, un peu un drive à la Joe Montana, qui va être mené par Ben Roethlisberger, à peu près sur la même distance d'ailleurs, je crois que c'est 90 yards. Et Roethlisberger, qui avait gagné, était le plus jeune quarterback à gagner le Super Bowl 3 ans avant, mais en faisant un match catastrophique, il était tétanisé. Et là, dans ce Super Bowl, il joue mieux, mais il n'a toujours pas envoyé une passe de touchdown. Et puis ça, c'est vraiment c'est le drive de sa vie. Il va faire un drive formidable avec une passe captée par Santonio Holmes, son receveur, qui sera le MVP du match. Sur le bout des orteils, c'est une passe vraiment incroyable, une action très célèbre. Donc, c'est un toboggan émotionnel pour tous les supporters, qu'ils soient d'Arizona ou de Pittsburgh. Et je pense même honnêtement que sans être fan des deux équipes, tout le monde a dû prendre un immense plaisir devant ce Super Bowl-là.
Ouais, je conseille de revoir le replay sur YouTube, notamment ce que tu dis, Laurent, à la fin, la passe et la réception de Santonio Holmes. C'est incroyable, on le voit au milieu de trois joueurs adverses et il arrive à attraper le ballon sur la pointe des pieds, comme tu le dis.
D'ailleurs, Roethlisberger l'a raconté, juste avant, il fait une autre passe pour Santonio Holmes. Donc, il est persuadé qu'il va la capter, mais elle est un peu forte, un peu haute et Holmes n'arrive pas à la maîtriser. Et sur cette passe-là, Roethlisberger, quand il lance le ballon et qu'il voit les trois défenseurs, il est persuadé qu'il va être intercepté. Le premier truc qu'il se dit, c'est « Merde, qu'est-ce que j'ai fait ?» Et voilà, bon, ça se joue à très très peu, hein, parfois entre la gloire ou les critiques et l'opprobre, il n'y a pas grand-chose.
Je réalise pourquoi Samir disait que j'avais pas dû apprécier, c'est que le geste est tellement exceptionnel que j'en ai oublié que la victime était ce pauvre Kurt Warner et que en effet sur le moment ça m'a complètement crevé le cœur parce que je pensais vraiment qu'ils allaient repasser devant et qu'ils reprenaient le match en main, et parce que il y a quand même cette histoire dans l'histoire, parce que Kurt Warner était le quarterback des Rams. Donc titré en 99-2000, deux fois MVP, finaliste après malheureux donc en 2001-2002. Et Kurt Warner avait eu un creux de carrière quand même assez significatif après son passage aux Rams. Et c'était une sorte de renaissance complètement inattendue. Alors à une époque où les quarterbacks de 37 ans ne jouaient pas au niveau de Tom Brady maintenant à 43, mais c'était une renaissance complètement inattendue. Il avait planté Matt Lennard, qui était un joueur choisi très haut au premier tour, qui était censé être l'avenir des Cardinals. Et puis Warner à 37 ans lui avait pris la place. Donc il y avait en effet moi le côté affectif où j'avais envie de voir Warner triompher, mais les Steelers ont fait des choses tellement incroyables sur les fins de mi-temps avec Harrison d'abord et avec Holmes à la fin sur les orteils que ouais, c'est un match complètement incroyable. Il y a ce touchdown de Larry Fitzgerald plein champ en effet à 2 minutes 30 de la fin où c'est la libération, il repasse en fin devant. Et en fait oui, c'était trop tôt, ce drive il est exceptionnel en fin de match, et moi c'est aussi pour ça que j'hésitais à le prendre, ça a failli être mon choix. C'est qu'il y a quand même une qualité de jeu et des histoires notables, des rebondissements, un final incroyable, l'histoire de Kurt Warner au milieu de tout ça. Enfin, c'est un match qui avait quand même énormément de choses. Et comme tu le disais, Laurent, je pense que même en spectateur neutre, c'était un régal, quoi.
Pour rebondir sur ce match, on en a parlé avec Laurent, on a la même passion parce que moi, les 49ers, c'est mon équipe de cœur parce que, comme je vous l'ai dit, c'est le premier Super Bowl que j'ai vu en direct et que j'ai une vraie affection avec Joe Montana. Mais l'équipe qui me fait vibrer, et ce, depuis le début des années 90, c'est les Steelers de Pittsburgh, pour plein de raisons. Parce qu'elles ressemblent,
pour ça qu'on t'a invité,
hein. Elles ressemblent finalement à ce que moi j'attends du football américain, à savoir une organisation qui est un peu familiale, une vraie équipe, pas de stars, un collectif. Moi, quand j'ai découvert le football américain et que je me suis mis à y jouer, c'était au Flash de la Courneuve, et les couleurs sont identiques. Ce fameux noir et or, c'est aussi pour ça que j'adore les Steelers de Pittsburgh. Et cette équipe, dans ce côté familial, ce qu'il faut aussi remettre dans le contexte, c'est que depuis la fin des années 60, elle n'a eu que 3 entraîneurs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu de ce que ça représente, c'est-à-dire qu'en près de 50 ans, cette équipe n'a eu que 3 entraîneurs. C'est vous dire un petit peu ce côté familial et la façon dont se construit ce collectif. Et c'est vrai que moi, j'ai hésité avec ce Super Bowl parce que voilà, c'est le Super Bowl de la maturité. J'avais déjà eu une carrière dans le foot américain, donc je savais ce que c'était. J'ai plein d'amis qui ont joué dans ce Super Bowl. Kurt Warner, moi, je le connais parce qu'il est passé par la NFL Europe. On s'est rencontrés plein de fois avant ce match. Sean Morey, qui est l'un de mes meilleurs amis, était dans ce Super Bowl. Il était même capitaine dans ce Super Bowl, l'un des plus grands joueurs special team de l'histoire. Et voilà, il y a une espèce de dramaturgie aussi qui fait que des deux côtés, ils se connaissent parfaitement. Il y a des anciens joueurs des Steelers qui jouent ou qui coachent avec les Cardinals. Et puis, il y a cette résurrection dont parlait Alain, Kurt Warner, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. C'est une histoire qui vient d'ailleurs, c'est l'histoire américaine. C'est un garçon qui a été coupé par les Packers au milieu des années 90, alors qu'il pensait avoir sa chance. Il va devenir livreur dans un magasin où il emballe les courses des vieilles mamies aux caisses. Avant de passer par l'Europe où il se refait la cerise, derrière il devient star aux Rams parce qu'il y a 15 blessés devant lui. Il repart aux Giants pensant faire un gros contrat justement pour enfin mettre sa famille à l'abri. Ça ne marche pas du tout. C'est Eli Manning qui lui repasse devant. Il devient quarterback remplaçant aux Cardinals, comme le disait Alain, derrière Matt Leinart qui était Heisman Trophy, donc meilleur joueur universitaire. Il réussit à lui prendre la place parce que Matt Leinart n'est pas très bon. Ça devient le meilleur pote de Larry Fitzgerald. Il prend en main, ça je vous le dis, parce que c'est une info de première main. Il prend en main l'attaque. C'est lui qui a appelé ses jeux. Ce n'était pas Wisen Hunt. Wisen Hunt, il avait mis en place le carcan de l'attaque, mais c'est lui qui a appelé ses jeux. Et il est à rien, à 2 minutes, comme l'a dit Laurent, de gagner son Super Bowl. Pas celui des Rams, pas le Greatest Show on Turf. Son Super Bowl. Mais non, il y a le collectif des Pittsburgh Steelers qui finalement revient. Et voilà, c'est ça en fait. Moi, j'ai l'habitude de dire que ce Super Bowl, c'est la victoire au buzzer. Façon NBA, c'est la victoire au buzzer des Steelers sur cette passe de Roethlisberger pour Santonio Holmes.
Et on parlait de l'histoire, le parcours de Kurt Warner et celui de James Harrison, donc, dont je parlais tout à l'heure, est assez formidable aussi, parce que c'est un joueur qui n'a pas été drafté. Donc en gros, en qui personne ne croyait quand il est arrivé en NFL, qui a bourlingué d'équipe, ce qu'on appelle un journeyman, hein, c'est un mec qui voyage et qui passe d'équipe en équipe quand il y a un bout de place au bout du roster, et qui a été coupé plusieurs fois, y compris par les Steelers. Et je crois que c'est la troisième fois où il revient à Pittsburgh, où il va finir par se faire sa place. Donc il va émerger très tard, hein, vraiment, il va devenir titulaire à 26 ans ou 27 ans. Et ça va devenir un monstre, vraiment un monstre. Et c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup le fait qu'il ait eu ça. Il n'avait pas besoin de ça, il a fait une très belle carrière. Mais cette action-là, quand même, évidemment, pour la postérité, ça vous change un destin quand même.
J'ai joué contre James Harrison, puisqu'il est passé par l'Europe aussi. Il a joué au Rhein Fire, il a joué à Düsseldorf en 2003. J'ai plein de potes qui l'ont côtoyé justement à Düsseldorf. Et pour l'avoir rencontré, on l'appelait Dibo. Je ne sais pas si vous connaissez ce personnage du film Friday avec Dr. Dre.
Son surnom, Dibo. Ouais.
Voilà, Dibo, en fait, il est né de là, son surnom, parce que c'était un mec qui parlait à personne. Il avait toujours le visage fermé. En fait, il était tellement focus sur le but à atteindre, à savoir devenir pro, devenir star, devenir un vrai joueur NFL, qui parlait à personne. Il ne se faisait pas d'amis en fait en Europe. Et déjà, il était au-dessus de la moyenne en termes d'entraînement. Laurent, Alain peuvent le dire, mais c'est vrai qu'il poste encore aujourd'hui, alors qu'il a, il doit être un tout petit peu plus vieux que moi. Il doit avoir 46 ans, je pense, quelque chose comme ça. Il continue à poster sur les réseaux sociaux ses vidéos d'entraînement à la salle de muscu. C'est juste dément, il soulève des camtars encore.
Ah, il est mythique hein, pour ça.
Et à 40 piges, c'était encore le mec qui passait le plus de temps à la salle pour, pour s'entraîner, y compris à l'intersaison. Et les histoires, les stars de la NFL, ce n'est pas toujours des destins tout tracés. Et c'est aussi ça que j'aime, et peut-être même ce que je préfère dans l'histoire d'un Tom Brady dont on va parler maintenant. C'est que lui, il a toujours été convaincu qu'il allait être un très, très, très grand joueur. Et peut-être une époque où il était le seul. Et il faut. C'est une jungle, hein, la NFL. Vraiment, c'est une jungle. Les carrières sont très courtes. On se focalise sur des gens comme Brady, comme Rodgers, et quarterback qui jouent jusqu'à 40 piges ou plus. Mais la durée moyenne d'une carrière en NFL, c'est très, très court. Mmh. Et voilà, moi, j'aime bien ces histoires-là. Et c'est aussi ça qui fait la grandeur de ce sport.
Tu le disais, Laurent, on va passer sur un match plus récent avec une star que, qui dépasse le cadre là de la du football américain, c'est Tom Brady pour le 49e Super Bowl de 2015. Alain, tu as choisi ce match entre les Patriots, les New England Patriots et les Seattle Seahawks.
C'est ça, 28-24 pour les Patriots. Et alors, je sais même pas si c'est le match le plus mémorable des Patriots au Super Bowl, parce que le 28-3 contre Atlanta, la remontada, ça peut être voilà. Mais en termes de qualité et d'éléments qui font un grand match, pour moi, il était un peu au-dessus, parce que sur celui d'Atlanta, j'ai pas l'impression que les deux équipes aient joué au même moment, donc c'est difficile d'avoir un match complet. Mais en fait, sur ce Seahawks Patriots, pour moi, en tout cas de ceux que j'ai vus en direct notamment. C'est celui où il y a la plus grande qualité en permanence, c'est-à-dire qu'on a une grande attaque contre une grande défense. Et je dis ça parce qu'à l'époque, celle de Seattle, c'était la Legion of Boom, donc c'était le surnom de ce groupe d'arrière défensif où ils étaient tous plus forts les uns que les autres. Il y avait Cam Chancellor, le cogneur, il y avait Richard Sherman qui était un peu la grande gueule et qui est toujours un joueur de grand talent. Mais la défense de New England d'ailleurs était très 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 forte aussi, hein. Il y avait des joueurs comme Vince Wilfork, Devin McCourty qui est toujours là, Darrell Revis était signé pour une saison aussi, donc il y avait des très bonnes défenses, il y avait des très bonnes attaques, parce qu'on a évidemment Tom Brady, Julian Edelman, Gronkowski est là, tout le monde est là du côté de New England. Et en fait, c'est vraiment un match où pour moi la qualité de jeu est permanente, c'est-à-dire qu'il y a une grande défense qui force une grande attaque à jouer encore mieux, et tout le monde se sublime en permanence. Même si le score, alors le score monte un peu sur la fin, mais il y a 0-0 après le premier quart, ça se lance un petit peu par la suite. Et après, il y a un scénario qui se met en marche, qui en plus ajoute pour moi à tout ça. Il y a 24-10 quand même pour Seattle au début du dernier quart. Donc ils sont quand même dans le trou, les Patriots. Je dis une bêtise d'ailleurs, il y a 24-14. Il y a 10 points de retard.
Il y a 10 points de retard à la fin du quatrième quart. Enfin, au début du quatrième quart.
C'est ça. Il y a 24-14, ils ont 10 points face à cette défense de Pittsburgh. De Pittsburgh. Voilà, des formations.
Suffit, hein.
Voilà, les grandes défenses, c'est Pittsburgh d'habitude. Face à cette grande défense de Seattle. À ce moment-là, on se dit, bon, 10 points, un quart-temps, c'est très, très dur. Ils en ont mis 14 sur les trois premiers. Et puis, Tom Brady, quoi. C'est-à-dire que le niveau monte. Et puis, il en marque un avec Julian Edelman, avec Danny Amendola d'abord, pardon. La défense des Patriots monte le niveau. L'attaque monte encore le niveau pour déborder encore et marquer avec Julian Edelman à un peu plus de 2 minutes de la fin. On se retrouve un peu d'ailleurs dans la configuration de ces grands Super Bowls dont on parlait, c'est-à-dire qu'il y a une équipe qui récupère le ballon avec 2-3 minutes à jouer et un drive pour aller marquer. À ce moment-là, en général, l'attaque, on l'a vu avec les 49ers ou avec les Steelers, va faire la décision et offrir un match de légende. Et en fait, là, ce qui est dingue avec ce match, c'est qu'il y a 3 actions qui, pour moi, sont toutes légendaires coup sur coup à la fin. Il y en a une qui est trop souvent oubliée, c'est cette bombe de Russell Wilson pour Jermaine Kearse. Juste avant en fait la course de Marshall Lynch, donc en toute fin de match, où il tombe en arrière, le ballon rebondit sur lui, il a l'air en lévitation, il arrive à sortir une main pour le ramener et à attraper cette réception qui est dinguissime. C'est un peu au moment où elle arrive, je me dis c'est le helmet catch de ce match, parce que le helmet catch, c'est la grande réception dans le Giants Patriots, et je me dis c'est à nouveau le helmet catch, ils vont perdre sur un truc improbable les Patriots. Derrière cette action folle, Marshall Lynch court vers la end zone, se fait stopper à 1 yard de la end zone. Il reste quelques secondes à jouer et là, tout le monde se dit, ils vont donner le ballon à Marshall Lynch, leur coureur qui a fait plus d'une centaine de yards dans ce match, qui va aller dans la end zone et ils vont crucifier les Patriots en toute fin de match. Et au lieu de ça, Pete Carroll, le coach de Seattle, choisit de faire une passe. La passe est interceptée et c'est la stupeur complète dans le stade, tout s'arrête. Les images même de Tom Brady sur le banc sont incroyables parce qu'il est abattu et en une seconde, il voit ce qui s'est passé, il court partout, il a un visage, il a un sourire de gamin, il court partout, il est heureux comme tout. Et ce rebondissement est complètement dingue. Et là, c'est ce que je disais, moi, ce que j'aime bien dans ce genre de match-là, c'est l'instant machine à café, quoi. C'est-à-dire que le lendemain, tout le monde ne parle que de ça. Tout le monde se prend pour Pete Carroll et dit « Moi, j'aurais fait une course. Il a pris la pire décision du monde. » Et on parle que de ça pendant… encore. Je pense qu'on lui en parle encore aujourd'hui, 6 ans après. Et voilà. Donc, il y a tout ça pour moi qu'on a fait un match quand même monumental de bout en bout. Et après, pour les petits arguments perso, moi, je l'ai dit, j'y étais. C'était le deuxième Super Bowl qu'on couvrait avec le site sur place. La tribune de presse est vraiment juste en face de la end zone, en fait, où se passe le dernier drive. Donc, la réception de Kearse, ça se passe vraiment déjà devant moi. J'ai l'impression de voir le ballon léviter là-dessus. Et l'interception, bah, on est en train de bosser. Donc, bon, des fois, on fait des allers-retours entre les yeux, terrain, clavier, pour taper l'article, pour taper les tweets, etc. Ouais,
là, tu pouvais tout recommencer. Hein, si
et alors, non, mais en fait, tu vois, si tu veux, j'étais en train de taper un tweet, et je relève les yeux et je vois en fait Malcolm Butler qui surgit. Qui tape un peu de l'épaule sur le locket qui était ciblé. Et donc, tu vois les épaules qui tapent, tu vois Butler qui tombe par terre avec le ballon et tu sens qu'autour, ça se précipite, qu'il l'a, qu'il essaye de ne pas retomber dans la end zone. Et c'est une sorte de frénésie, de folie complète. Donc voilà, il y avait ça qui était complètement dingue. Et encore une fois, à titre perso, alors moi, j'aime bien voir les grands joueurs gagner. C'est un truc un peu égoïste, mais on parlait de premier Super Bowl. Moi, le premier que je vois en direct, c'est le Patriots-Rams où Brady gagne son premier titre. Il en gagne 3. Derrière, il y a aussi une histoire d'ailleurs dans ce match, c'est qu'il avait perdu les deux derniers qu'il avait joués. Ça commençait à remonter. Ça faisait 10 ans qu'il n'avait pas gagné un Super Bowl, Tom Brady. Et donc, moi, il y a ce truc-là de se dire, voilà, je voulais voir Brady gagner en vrai quand même. J'avais l'occasion d'être sur place. L'année d'avant, j'avais vu Peyton Manning se faire massacrer par les Seahawks. C'était pas le souvenir que j'avais envie de garder de Peyton Manning. Là, j'avais envie de voir, de dire, voilà, c'est égoïste, mais de dire, j'ai un peu vu ce petit morceau d'histoire, j'ai vu Brady gagner un Super Bowl. Et voilà, donc il y avait tout ça, et ça en fait pour moi un monument.
C'est marrant parce que, contrairement à Laurent, le match que tu as choisi, Laurent, l'équipe adverse se dit, zut, on a peut-être marqué un peu trop vite. Et du coup, ils se font reprendre la dernière seconde. Là, ils ont marqué peut-être trop vite, mais ils ont résisté et ils ont fini par gagner. Donc, c'est deux scénarios qui sont différents et qui sont beaux aussi par leur scénario, justement.
Ah oui, moi, je pense que c'est le dénouement le plus dingue que j'ai vu au Super Bowl. Parce que un drive offensif qui se termine par un touchdown, comme on l'a évoqué avec Montana ou celui de Roethlisberger avec Pittsburgh et tant d'autres, c'était magnifique. Mais C'est la logique sportive, j'ai envie de dire, presque. En tout cas, c'est soit c'est un touchdown, soit la défense va les stopper bien plus tôt. Mais là, se faire arrêter à un yard de la ligne, contre toute logique, puisqu'effectivement, le bon sens, c'était de donner le ballon à Marshall Lynch. Et on ne saura jamais s'il avait marqué ou pas. Mais je suis à peu près sûr que s'il n'avait pas marqué, on reprocherait à Pete Carroll d'avoir été, entre guillemets, trop conservateur. Et la prise de risque, le coup de génie, ou encore une fois, hein, la frontière entre le génial ou l'absurde et l'échec total, c'est une feuille de papier à cigarette. Et les actions les plus mythiques sont parfois aussi les plus surprenantes. Donc, je comprends complètement finalement la logique illogique de Pete Carroll sur cette séquence-là. Mais ouais, c'était complètement dingue. Alors après, moi, Tom Brady, j'ai un immense respect pour lui, j'ai un immense respect pour les Patriots, mais j'ai jamais soutenu les Patriots, moi, dans un Super Bowl. Hein, c'est ma bête noire. Tom Brady a fait énormément de misère à mon équipe de cœur. Mais après, il faut reconnaître un truc, c'est que même s'ils ont beaucoup dominé, qu'ils ont beaucoup gagné, ils ont rarement écrasé un Super Bowl. Ça s'est toujours joué sur un dernier drive, sur une dernière action. Et tous les Super Bowls gagnés par les Patriots, pratiquement, sont formidables. Le premier contre les Rams, les deux qui sont un peu oubliés contre Carolina et Philadelphie sont aussi des très, très beaux matchs. Évidemment, le retournement de situation contre Atlanta. Mais celui-là, c'est vrai que je pense, Alain a raison, qualitativement, c'est peut-être le meilleur, peut-être avec celui contre Carolina. Alors, je me trompe peut-être, mais j'ai un très bon souvenir de ce match qui était vraiment un très, très beau match. Mais c'est vrai que là, il y a tout dans ce match-là. Il y a tout et puis, ouais, voilà. Et pour moi, c'est vraiment le dénouement le plus dingue.
Il y a un peu de non-sens dans ce Super Bowl et dans cette fin de match. Pour remettre en perspective ce qu'Alain a dit, c'est vrai que les Seahawks étaient la meilleure défense de la NFL, considérée comme l'une des meilleures de l'histoire. Les fans des Steelers, justement, de 2008-2009 vous diront le contraire. Mais bon, il y a cette fameuse Legion of Boom, les Sherman et compagnie. Et c'est vrai qu'ils ont aussi la possibilité de faire un doublé. Ça, les gens l'oublient, mais c'est eux qui sont champions en titre. C'est rare qu'une équipe revienne au Super Bowl l'année suivante pour faire un doublé. Des back-to-back, il n'y en a pas eu tant que ça. Les Steelers en ont fait, notamment. Mais moi, ce qui me choque aussi dans ce match, c'est qu'à la fin, oublions les rebondissements parce qu'il y a eu un vrai chassé-croisé. L'équipe a pris l'avantage, l'autre équipe est revenue, l'équipe a pris l'avantage, l'autre équipe est revenue. C'est qu'il reste quasiment 30 secondes. Il doit rester 25, 26 ou 27 secondes avant cette dernière action. On est en deuxième tentative et les Seahawks sont toujours un temps mort. Donc, il n'y a pas vraiment de sens de se dire qu'ils font cette passe. Pourquoi faire cette passe ? C'est-à-dire que Marshawn Lynch, quand bien même il n'aurait pas marqué, parce que voilà, il aurait pu ne pas marquer, il aurait fallu au moins tenter de faire la course pour le tracteur Marshawn Lynch et se dire, bon, ça ne passe pas, il nous reste deux tentatives, il nous reste un temps mort, il nous reste du temps. Eh bien non, c'est aussi cette bascule dans cette franchise où on donne les clés à ce moment-là à Russell Wilson. Et c'est un vrai changement de mentalité dans cette équipe parce que c'est aussi pour moi la signature de la fin de cette grande défense. Parce que l'année d'après, il y a une espèce de décrépitude, quelques joueurs vont partir et on a donné les clés du camion à Russell Wilson. Cette équipe qui avait une marque défensive devient une équipe offensive menée par un joueur, Russell Wilson. Mais si on prend le point de départ, on donne les clés à un joueur alors qu'il réussit peut-être l'action la plus importante de l'histoire de la franchise. Donc voilà, il y a une espèce aussi de légende qui se crée autour de cette action. Marshawn Lynch n'a pas le ballon, c'est Russell Wilson et c'est la fin de la défense qui est la signature de cette équipe.
Ah bah c'est une action qui en interne a fait du mal, hein. Il y a eu plusieurs reportages de médias US qui disséquaient un peu l'intérieur du vestiaire. Il y a eu des conséquences à long terme clairement sur ce qui se passait dans le vestiaire, hein. Ça c'est évident. Juste pour finir, par contre, on parlait d'improbabilité et de héros. On a même pas, je sais même pas si j'ai dit son nom vite fait en passant, mais Malcolm Butler, donc qui réussit l'interception décisive. Pareil, un joueur qui est pas sélectionné à la draft. Et je le disais, il y avait Devin McCourty, il y avait Darrell Revis. Enfin, il y avait quand même du beau monde dans cette défense. Au moment où c'est lui qui intercepte, Malcolm Butler, et il se retrouve dans le vestiaire. Alors c'est déjà un joueur qui commence à se montrer.
Ouais, il fait une très belle saison.
Voilà, mais je veux dire pour le grand public. Le mec sort un peu de nulle part pour l'action décisive. Autant Dont Hightower qui réussit le plaquage avant. Enfin, voilà, y avait du beau monde. Mais c'est vrai que c'était aussi une belle image. Moi, je me souviens de ce mec-là dans le vestiaire avec le trophée Lombardi et puis le propriétaire des Patriots qui arrive avec son beau costume et qui lui met la main sur l'épaule pour le féliciter. Je pense que c'est pareil. C'était la vedette inattendue d'un Super Bowl où il y avait des tonnes de stars.
Tom Brady est MVP de ce Super Bowl, ouais. Mais il l'envoie à Disneyland. Il lui donne son billet, parce que vous savez, le MVP du Super Bowl a un ticket gratuit en famille à Disneyland, et c'est Malcolm Butler qui y va, c'est le geste et le cadeau fait par Tom Brady.
Très bien, messieurs, est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose ?
Moi, il y a deux Super Bowl très vite que je voudrais évoquer. Le premier, j'en ai parlé en deux secondes, c'était celui de 1991 entre les Giants et Buffalo, parce que... Samir parlait tout à l'heure d'être fan d'une franchise et puis il y a l'affection. On aime une franchise et puis on peut avoir de l'affection pour des équipes ponctuellement, pour des circonstances. Et moi, j'avais une énorme affection pour les Bills de Buffalo. J'ai adoré cette équipe qui, à sa manière, a un peu chamboulé, révolutionné le jeu offensif au début des années 90 et qui donc est la seule équipe à avoir joué 4 Super Bowls de suite dans l'histoire, ce qui est un exploit colossal quand on sait ce que ça implique de se qualifier pour un Super Bowl. Malheureusement, ils sont rentrés dans la légende parce qu'ils ont perdu les 4. Donc, c'est l'équipe maudite et ce premier Super Bowl qui est peut-être celui qui a tout changé parce qu'ils auraient pu gagner à la dernière seconde et ils sont menés 2 points. Ils ont un field goal pour la victoire et c'est le fameux wide right, ballon passe à droite des perches et ne gagne pas. Moi, ça avait été un peu un crève-cœur et en revanche, les 3 Super Bowls suivants, ils vont vraiment quasiment pas existé, même si le dernier il mène à la mi-temps, mais même eux j'ai l'impression qu'ils n'y ont jamais cru et c'était une opposition de style, ce qui est toujours formidable en foot US, entre une défense exceptionnelle, celle des Giants, et puis une attaque qui marchait sur l'eau. Et l'autre, c'est on l'a aussi évoqué très très rapidement, c'est celui entre les Rams et les Titans du Tennessee, qui est vraiment encore un score pas très élevé, mais quel match et quel dénouement, les Rams qui mènent très vite 16-0, je crois. Et voilà, on pense que ce match ne va avoir aucun intérêt. Tennessee revient à 16-16. Les Rams reprennent l'avantage 23-16. Et puis, il y a un dernier drive qui est incroyable où les Titans essayent d'égaliser pour arracher la prolongation. Et puis, il y a un plaquage sur la dernière action, au buzzer, hein, comme on disait tout à l'heure. avec, je crois que c'est Dyson qui tend le bras vers la end zone désespérément et il est un petit peu trop court. Et le héros est oublié de ce match pour les Rams, c'est le linebacker qui a réussi le plaquage. Je crois que c'était Mike Jones, si je dis pas de bêtises. Non, c'était pas ça.
Ça me dit quelque chose, oui, je crois que c'est ça. Ouais.
Je crois que c'est ça, je ne veux pas dire bêtises. Et voilà, et c'est lui qui fait le plaquage décisif sur Dyson. Et ben voilà, on est encore entre cette poignée de centimètres qui sépare le paradis absolu de la frustration éternelle. Et c'est ça qui est formidable vraiment dans ce sport. Et si on peut essayer de donner envie à des gens de découvrir le foot US pour ceux qui ne connaissent pas, en termes vraiment d'histoire et en termes de dramaturgie, alors parfois, oui, il faut parfois attendre 3 heures et demie pour vivre des moments comme ça. Mais sincèrement, ces dénouements-là, moi, il y a peu de sports qui me procurent des émotions comme ça. Et dans ce Super Bowl-là, je n'avais aucun côté supporter. Je me fichais de savoir qui allait gagner. J'étais même plutôt pour les Rams au début. Et puis finalement, à la fin, j'avais envie que les Titans s'en sortent parce que c'était tellement énorme ce qu'ils étaient en train de faire. Et voilà, c'est encore un dénouement inoubliable.
Steve McNair est tellement incroyable sur le dernier drive que c'est dur d'être contre eux quand tu le vois évoluer comme ça.
En tout cas, c'est de beaux exemples, messieurs, que vous nous donnez, qui nous donnent envie d'aller taper sur YouTube quelques mots pour revoir ces actions mémorables. Merci d'avoir participé à ce podcast. Je vous rappelle qu'il est retrouvé sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner, comme ça vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Salut à tous.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.